Bonjour. Alors, dans le cadre très précis de ces journées qui se sont fixées, entre autres buts, de circonscrire les modalités spécifiques qui régissent le dialogue incessant qu'entretiennent ou qu'entretinrent comédiens de voix et musique, je souhaiterais ce jour vous parler d'une période bien précise, c'est-à-dire les années finissantes du règne de Louis XIV et les premières décennies du siècle des Lumières. Période au cours de laquelle ce dialogue put s'épanouir et nous laisser en héritage un corpus de plus d'une centaine d'opéras. Et plus spécifiquement d'opéra comique, mais ce sont des notions sur lesquelles je vais revenir au fur et à mesure. Alors, je tenterai dans un premier temps de restituer le répertoire des pièces musicales dédiées aux comédiens de voix dans leur contexte historico-théâtral, ce qui me permettra de confronter à des réalités que je souhaite les plus objectives et factuelles possibles plusieurs des assertions issues d'études contemporaines traitant de ces sujets. Il convient en effet de rompre avec quelques idées tenaces que nous devons à des auteurs du 19e, idées que nous continuons malheureusement à répéter à l'envi. Ainsi, la place des marionnettes dans l'univers des foires de l'Ancien Régime ne se limite pas à faire intervenir Paul Chinelle et les siens comme de simples palliatifs face au théâtre privilégié de l'époque, mais procède d'un véritable choix esthétique. Nous l'allons voir dans un instant. Toujours dans ce catalogue des idées reçues, gardons-nous de considérer comme idiomatiques des pièces qui furent, au moment de leur dévolution, pensées et écrites pour acteurs de chair et d'os. Je m'explique. Par exemple, un auteur comme Denis Carolet, qui a œuvré dans les 40 premières années du siècle des Lumières, donc au XVIIIe siècle, a commencé à écrire pour acteurs de chair et d'os. Donc il a dévolu vraiment ses pièces pour des acteurs, mais qui n'ont pas voulu de ces pièces. Alors, elles ont été jouées, faute de mieux, par les marionnettistes et les entrepreneurs de marionnettes des foires Saint-Germain et Saint-Laurent. Et puis par la suite, quand certains entrepreneurs, comme toute la dynastie des bienfaits, ont pignon sur rue dans ces deux foires, Carolet a développé un répertoire véritablement idiomatique. Maintenant, il est dangereux actuellement de considérer comme un monolithe l'ensemble des pièces qui ont été jouées par marionnettes, mais qui n'ont pas été, au moment de leur dévolution, écrites pour marionnettes. Donc on a deux statuts tout à fait différents. Et il convient vraiment de les différencier, parce que sinon on ne peut pas savoir ce qui est vraiment une lexicographie spécifique, une étude, même une étude musicalisée spécifique pour marionnettes. Alors je vous parlerai ensuite du répertoire musical développé dans les théâtres de foire, de leur fonctionnement propre et de leurs particularités. Ce sera l'occasion de préciser un certain nombre de notions et d'entrevoir les modalités de fonctionnement des pièces en vaudeville. Je profiterai de l'occasion qui me sera donnée alors pour vous présenter un outil qui s'appelle Foiremuse, qui est une base de données qui sera en ligne à l'horizon 2015. Je sais, c'est un temps qui est tardif, mais pour développer des outils, ce ne sont pas les organisateurs de la manifestation qui vont me contredire, mais pour développer véritablement des outils interactifs et des projets européens, des partenaires qui viennent de Hollande, de France, de Belgique, d'une Belgique qui malheureusement est déjà fort divisée et dans laquelle on a du mal à retrouver les nôtres. Donc c'est vraiment très complexe. Et j'ai trouvé des financements en 2015 pour pouvoir mettre en ligne toute la base de données. Donc je vous présenterai cet objet qui regroupe les 100 opéras, pour 100 opéras comiques pour marionnettes et également d'autres opéras comiques pour acteurs de chair et d'os. Mais les 100 opéras sont prêts, tant au niveau littéraire, au niveau des facsimilés, des manuscrits et de toutes les musiques qui sont afférentes. Et enfin, si le temps qui m'est imparti me l'autorise encore, et dans la volonté de contextualiser les propos historiques et théoriques que j'aurais développés, j'essaierai tant bien que mal, mais j'espère plutôt bien que mal, de vous parler de la manière dont je perçois actuellement l'articulation musique-marionnette dans l'opéra comique au cours des restitutions et reconstitutions contemporaines du répertoire anciennement joué dans les foires. Nous verrons alors ensemble comment le vaudeville s'avère être un allié précieux par sa structure rythmique pour donner une place unique à la marionnette à côté des acteurs de chair et d'os. Nous nous pencherons pour ce faire de manière plus pratique sur un opéra comique lyrique de Pino Iuli, Attis. Nous avons été invités pour donner directement la parodie, comme ça se faisait au XVIIIe siècle, à chaque reprise des tragédies lyriques, ou alors au niveau des créations des tragédies lyriques de Rameau, de Des Touches, de Campra. À chaque fois, les marionnettistes donnaient des parodies de ces opéras. Ce dernier moment de mon intervention sera aussi l'occasion de nous pencher sur les éléments matériels, autorisant la reconstitution de l'iconosphère foraine, en présentant différents documents malheureusement trop peu présents dans les écrits spécialisés traitant de la marionnette. Écrits qui ont une tendance à reproduire encore et encore toujours les mêmes documents. Ces éléments matériels nous permettront de repenser la place de la marionnette dans l'espace créatif des foires de l'Ancien Régime, ou dans celui non moins créatif, mais si c'est respectueux des informations et données du passé, visant à la reconstitution, recréation des opéras et des spectacles anciens. Alors je vois que le temps passe très vite, on nous a octroyé 20 minutes à chacun. Si je veux véritablement vous présenter la base de données et vous montrer un petit peu ce que je pense de l'opéra comique reconstitué actuellement, je vais passer très rapidement sur l'aspect historique. J'en ai discuté avec Emmanuel Cassan, je peux fournir le texte et des informations historiques complémentaires, car depuis l'écriture du livre que j'ai fait pour l'Institut international La Marionnette à Charleville, j'ai trouvé énormément de documents, spécialement pour le XVIIe siècle, qui étaient relativement peu connus et sur lesquels on passait allègrement. Donc ces documents-là, je les fournirai en ligne, soit via l'association Théma, soit via Saison, mais donc vous pourrez trouver tous ces éléments en ligne. Donc je vais parler très très rapidement des éléments historiques et du lieu dans lequel se développaient les opéras comiques pour marionnettes. En fait, en France, à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, on assiste à la naissance de deux grandes saisons théâtrales hors théâtre privilégié. Qu'est-ce que d'abord un théâtre privilégié ? C'est un théâtre qui reçoit une patente royale, et ça commence en 1669 pour l'Académie royale de musique, qui reçoit donc l'autorisation seule de pouvoir jouer des pièces en musique avec plus de deux violons, ou plus de six violons, ça dépendra des moments et des interprétations de cette patente royale, et de chanteurs. Ça veut dire que toutes les pièces de Molière, par exemple, qui ont été écrites avec Lully, eh bien Molière lui-même ne pourra plus les jouer. Parce que c'est Lully seul qui possédera par la suite la patente royale et le droit de pouvoir faire des pièces en musique. En 1680, c'est l'Académie royale, c'est la Comédie française qui va obtenir un privilège. Donc pour pouvoir faire des pièces en français à Paris, il faut passer par le privilège de la Comédie française. Alors je passe rapidement sur le privilège qui avait été accordé aux Italiens, mais qui en 1697 vont être chassés par la très prude Madame de Maintenon, qui était l'épouse morganatique de Louis XIV, et qui obtiendra de son royal époux, parce qu'elle pensait que les Italiens allaient jouer une pièce à l'encontre de sa vertu, la fausse prude, a fait chasser les comédiens ultramontains en 1697. Alors vont s'en suivre des combats entre les théâtres privilégiés qui ont tâché de faire respecter leurs privilèges, et puis différentes troupes, dont des troupes de marionnettes, Tripolis, des Bertrand, des Bienfaits, des Tiquet, Gillier et autres, qui vont essayer de pouvoir gagner des espaces de parole en enquêtant sur les différents privilèges qui avaient été accordés tant à l'Académie royale de musique qu'à la Comédie française. Alors c'est une des pages les plus drôlatiques de l'histoire littéraire, parce qu'au moment où donc, les comédiens français et l'Académie royale de musique ont tâché de faire interdire tous ces comédiens forains, par exemple, les comédiens forains, on leur dit « vous ne pouvez pas jouer des pièces en français », ils vont commencer à jouer des pièces en jargon, ou bien ils vont dire « oui, mais des pièces entières en français », parce qu'ils vont jouer des pièces en monologue. Et vous aviez un acteur qui était en police, qui courait au devant de la scène, qui débitait sa tirade, puis qui repartait très rapidement de l'autre côté. L'autre acteur revenait en scène, faisait la suite du dialogue et repartait de nouveau dans les coulisses. Alors ça faisait des jeux de va-et-vient très très amusants. Ils vont inventer également les écriteaux, faire chanter le public. Et en fait, les commissaires du Châtelet, qui étaient là pour voir si on pouvait effectivement dresser procès-verbal contre les comédiens forains, ne pouvaient pas dresser ce procès, parce qu'en fait, c'était le public qui chantait, on faisait descendre des écriteaux, et c'était le public qui chantait toutes les répliques théâtrales des comédiens. Par la suite, les comédiens forains ont acheté une partie du privilège de l'Académie royale de musique, ça à partir de 1708, renouvelé en 13 et en 15, et se sont donc arrogés le droit de pouvoir chanter eux-mêmes. Et toutes ces bagarres, toutes ces luttes, toutes ces araignées contre les comédiens forains vont durer jusqu'à 1744, date à laquelle Voltaire fera interdire toute pratique de la parodie, tellement il avait été vexé qu'on l'attaque à titre personnel. Il faut dire que les marionnettes vont jouer un rôle très particulier, parce qu'au moment d'Édipe, par exemple, les marionnettes ont joué des parodies très sévères à l'encontre de la personne même de Voltaire, qui n'était pas toujours le chantre de la liberté que nous avons tendance à croire. Donc encore une dernière chose pour cet aspect historique, pour bien camper la place des marionnettes, j'aimerais également dire que dans les écrits, ceux de Magnin, Maindron, et puis tous les écrits sur l'histoire de la marionnette en France, on a tendance à trop vite vouloir considérer la marionnette comme un élément polémique. Alors elle a été polémique, notamment en 1722, au moment où le sage Fuseli d'Orneval ont joué le Pierrot Romulus, l'ombre du cocher poète, mais bien auparavant, ça au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, elles n'étaient pas polémiques, elles ont simplement existé par parti pris esthétique.
le nombre de pièces que je retrouve au XVIIe siècle, qui sont des pièces musicalisées, je pense à Circé, Les Forces de la Magie, Le Père aux Autres, La Prise de Chaillot, qui étaient jouées par des marionnettes, l'âne de Lucien par exemple, marionnette et un âne sur scène.
Ça devait être quelque chose. Eh bien, toutes ces pièces-là sont donc musicalisées et font partie de partis pris esthétiques. Et notamment, par exemple, en 1701 et 1705, l'histoire de la marionnette tâche de nous dire que Bertrand, par exemple, dans les deux pièces qu'il joue à ce moment-là, réagit au privilège de la Comédie française, de l'Académie royale de musique. Pas du tout. Si on connaît bien l'histoire de ce temps, on sait qu'à ce moment-là, les attaques de la Comédie française à l'encontre des comédiens forains et des marionnettistes était en suspens. Donc le choix que fait Bertrand de jouer avec des marionnettes et avec des acteurs, mais des pièces mixtes, est un véritable choix esthétique. Et ça, nous devons le savoir, parce que c'est dans ces foires-là, la marionnette avait une place comme support privilégié, comme médium théâtral privilégié. Et elle n'était pas simplement, comme nous le considérons, simplement un palliatif contre les interdits de la Comédie française ou de l'Académie royale de musique. Alors je ne vais pas m'emballer, vous détailler l'entièreté de ce répertoire que je trouve vraiment passionnant parce qu'il s'inscrit vraiment dans une dynamique de prise de la parole, tant des acteurs de chair et d'os que de la marionnette. Mais je vais tâcher de vous présenter maintenant le fonctionnement, comment nous, actuellement, nous sommes confrontés à devoir travailler pour remonter une pièce. Alors j'ai choisi, puisque nous allons jouer le 14 mai à Tis Travesti, j'ai choisi de vous parler, et pour vous présenter la base de données, de vous présenter un manuscrit qui est donc celui d'Atis Travesti, qui se trouve, la plupart des manuscrits se trouvent à l'ABN, au département des manuscrits. On en trouve également à Sainte-Geneviève, à l'Arsenal et dans différentes bibliothèques de province. Alors, quand vous avez un manuscrit comme celui-là, le manuscrit d'Atis Travesti, vous êtes confronté à un double problème. D'abord, la paléographie textuelle. Bon nombre de termes n'ont plus les mêmes significations. Et même si vous établissez un bon protocole diplomatique pour transcrire tous ces textes, vous êtes confronté tout de même à un certain nombre d'interprétations textuelles, paléographiques. Et puis, le plus grand problème, c'était la partie musicale. Je ne sais pas si vous voyez, mais à l'endroit où je mets la flèche, le curseur de l'ordinateur, vous voyez que Polichinelle va parler sur l'air que j'estime. Alors, jusqu'à présent, les gens étaient très, très dubitatifs, parce que cet air que j'estime, quel est-il, comment retrouver tous ces airs. Si certains se retrouvent assez facilement, parce qu'on a encore le cotillon du bon tabac, c'est « J'ai du bon tabac », une certaine partie du répertoire est passée dans les chansons enfantines, ou ont été folklorisées, mais une grande partie, je dirais 70% du répertoire, était à retrouver dans les manuscrits anciens. Alors nous avons démarré depuis 20 ans une opération gigantesque qui consiste à développer d'abord une base de données musicale qui compte actuellement plus de 25 000 entrées, et qui reprend toutes les chansons des XVIIe et XVIIIe siècles qu'on appelle des vaudevilles, c'est-à-dire des airs, des mélodies sur lesquelles, au fur et à mesure, on a greffé de nouvelles paroles. Alors ces airs sont éminemment intéressants parce que sur la même musique, vous avez un texte de référence qu'on appelle l'hypotexte, et puis dans les différentes pièces théâtrales, vous avez des textes nouveaux mais qui sont contaminés pour les gens à l'époque déjà par cet hypotexte. Donc quand on dit par exemple dans la messe de minuit de Charpentier où il envoie des vaudevilles, les gens entendent l'oraison de la Vierge Marie, mais au départ ce sont deux bergers qui vont se tringler sur le gazon. Alors, c'est un peu schizophrénique parce qu'à l'église, ils entendent les nouvelles paroles qui sont vraiment sur le Kyrie Eleison ou sur les horizons de la Vierge Marie. Mais en fait, chacun arrive avec son bagage en disant « mais je viens de chanter ça à la maison » ou « c'est une pièce franchement érotique ». Je vous ferai passer tout à l'heure l'une ou l'autre chanson que nous venons d'enregistrer et qui sont des pièces, mais qu'actuellement, on a parfois du mal à jouer pour un public parce que ce sont des pièces à caractère presque pédopornographique à certains moments et pornographique à presque 90%. Donc il va y avoir une sorte de double langage tout le temps. Ça passait dans les recettes de cuisine, puis ça revenait de nouveau en chansons politiques du Pont Neuf. Et donc on parvenait à faire passer dans les pièces de marionnettes, par exemple, un double, un triple, un quadruple langage. Et quand le censeur royal arrivait, il disait « oui, qu'est-ce que vous essayez de dire par là ?» Les auteurs pour marionnettes disaient « nous, on ne veut rien dire. Si vous comprenez mal, c'est votre problème. » Et donc ce sont toujours des pièces avec beaucoup de double sens, de triple sens. Donc actuellement,
grâce à la base de données, et après ce travail de 20 ans, on retrouve à peu près 95-96% des airs. Donc ce qui nous permet de reconstituer la presque entièreté des opéras pour marionnettes. Le fait que nous parvenions à croiser également toutes les informations, en sachant qu'on n'a pas simplement les musiques pour marionnettes, mais on a tous les hypotextes précédents, l'hypotexte de base, mais également tout le cheminement à travers les années du développement de ces musiques, nous permet de, au moment où nous jouons ces musiques, de dire, voilà, en 1736, ce qui est la date d'Atys Travesti, eh bien, le courant était plutôt, pour tel air, de se moquer des religieux, de se moquer du pouvoir royal, ou bien l'air avait été totalement délité par des recettes de cuisine, ou par des chansons pornographiques, auquel cas, bon, on peut les mettre en scène, plus ou moins, dans cette veine-là. Et donc ça nous permet non seulement de retrouver les musiques, de retrouver parfois des accompagnements, mais de retrouver la force que devait avoir la dynamique, la structure dynamique, organique que devaient avoir ces musiques. Parce qu'il ne s'agit pas que de faire du musée, on pourrait reproduire l'ensemble de ces musiques, mais le but du jeu est de redonner aux spectateurs actuels la même dynamique que ces musiques avaient à l'époque. Alors il n'est pas possible évidemment de redonner tous les paramètres d'une reconstitution, parce qu'on sait qu'il y avait des codes de couleurs, des codes somptuaires, des codes gestuels, que si je vous dis par exemple « oui, je crois en vous », bien je sens que vous êtes très attentif, ça veut dire que c'est la vérité, mais si je vous dis ceci, vous êtes très attentif, tout le monde sait que vous ne l'êtes pas. Donc, suivant qu'on fasse un geste ou son contraire, on sait sur scène que la personne dit la vérité ou non. Et ça, ce sont des paramètres qu'on ne peut pas encore utiliser, parce qu'il faudrait avoir un public vraiment spécialisé. Mais par contre, redonner toute la dynamique des airs, ça, on le peut. Première chose, donc, paléographie textuelle. Deuxième chose, retrouver les musiques. Et tout ça se fait donc sur base de l'ensemble de la base de données que nous avons reconstruite, qui s'appelle Foire Muse, et qui comporte donc deux volets. Un volet textuel, où nous retranscrivons, mais de manière moderne, les pièces, parce que nous fournissons également les facsimilés, ce qui permet à tout le monde de faire le va-et-vient entre un protocole diplomatique issu des facsimilés et la notation moderne, qui permet à tout un chacun, aux praticiens, de directement avoir accès au texte. Et puis, comme vous le voyez, ceci s'est déjà préparé pour des éditions. Je vais devoir fermer d'abord le facsimilé. Voilà, vous aviez par exemple la transcription qui est faite d'Atys Travesti, pièce de marionnette de 1736. On peut soit donc cliquer sur le facsimilé et on peut également avoir directement accès aux musiques. Je prends celle-ci et vous pouvez directement avoir accès à la musique. Alors si par la suite on passe dans les fiches musicales, je vais le faire immédiatement. Voilà, vous pouvez avoir une fiche musicale avec son titre, sa source, l'ensemble de tous les titres et faux titres. Il faut savoir aussi que pour complexifier encore un peu le travail des musicologues, quand on a un titre à l'époque, par exemple que j'estime, eh bien ça peut être un des 47 titres génériques du même air. Parce que quand il démarre, par exemple, à la fin du XVIe, dans les polyphonies religieuses, qu'il passe au XVIIe siècle dans les mazarinades, puis qu'il repasse dans les opéras de Lully, parce que Lully lui-même va émailler ces différentes tragédies lyriques de petits airs, afin de réactiver l'attention du public, tous ces airs vont prendre chaque fois des appellations génériques différentes. C'est donc une grande enquête policière à travers deux siècles et demi, et ce jusqu'à la Révolution française, qu'on doit opérer pour connaître vraiment la teneur de toutes ces musiques. Voilà, donc ça c'est un outil qui sera présent en ligne, donc tout un chacun qui souhaitera s'intéresser à ce répertoire. Il y a des possibilités diverses d'analyser chacun des fragments musicaux. Par exemple, vous avez en tête un fragment musical, vous pouvez l'interroger directement sur quelques notes simplement, et la base de données va directement l'interroger sur tous les intervalles qui comprennent les notes que vous avez encodées. Donc ça permet de retrouver l'ensemble des airs issus de tragédies lyriques, tout le parcours musical de ces intervalles. On pourra définir ce qu'est un intervalle populaire, un intervalle savant, et ça, la base de données vous le permettra. Et donc malheureusement, ce ne sera en ligne qu'à partir de 2015, mais si certains d'entre vous s'intéressent à la reconstitution de ces opéras, moi je peux vraiment vous fournir gratuitement et avec grand plaisir l'ensemble du matériel. Alors pour faire une petite pause, je propose qu'on écoute un de ces vaudevilles. Est-ce que c'est possible de faire passer la plage 2? C'est un disque que nous venons de sortir, avec la soprano Céline Chen et l'ensemble des Menus plaisirs du roi, dans lesquels on montre à la fois des parodies spirituelles, donc le versant savant des choses, et directement leur parodie. Merci. Voilà. Les couplets s'enchaînent, parfois plus coquins les uns que les autres. Alors, je souhaiterais donc terminer mon intervention en vous présentant la reconstitution donc d'Attis via une estampe de Van Blarenberg. Donc ça me permettra de détailler les différents éléments constitutifs et de voir un petit peu la dynamique qui s'exerce dans la reprise de musique, dans la recréation de spectacles anciens. Alors cette estampe que j'ai fait publier dans le dernier numéro de Puck est une petite boîte à priser de Van Blarenberg. Elle a été faite dans la fin des années 60, début des années 70, c'est ce que nous apprend le poinçon de la boîte, et donc date de la fin de la foire Saint-Germain, qui va brûler en 1762. Et donc il s'agit non pas de l'exacte photographie d'un entrepreneur pour marionnettes, mais des réminiscences que Louis-Nicolas Van Blarenberg a de sa jeunesse et de son passage à l'état d'adulte, de différents théâtres de marionnettes qu'il a pu voir à la foire Saint-Germain ou à la foire Saint-Laurent. C'est encore beaucoup plus intéressant parce que nous avons dans une seule représentation à peu près tous les éléments fantasmés d'une représentation destinée aux comédiens de bois. Alors si on détaille, on a un castelet avec la présence de Polichinelle et Dame Gigogne. On peut penser donc que ce sont des pièces qui ont été principalement jouées dans les années 1730-1740, puisque le pic d'activité de la présence de Polichinelle et de Dame Gigogne date de ces années-là. On a à l'avant-plan deux musiciens, un instrument de dessus et un instrument de basse. Alors, premier élément qu'on peut apporter lorsqu'on lit l'ensemble des archives des commissaires du Châtelet, les archives de notaire, on constate que bien les comptes rendus de voyageurs qui décrivent les loges de marionnettes, on sait que la place des musiciens dans les loges de marionnettes peut varier d'un seul musicien à parfois 7-8 instrumentistes. Donc ici, on a, vu la taille réduite de la boîte, simplement la présence d'un instrument de dessus et d'un instrument de basse. Mais on peut se faire une idée assez formelle de ce que put être la place des instrumentistes dans la reconstitution ou à l'époque dans le jeu des marionnettes. On sait aussi que certains joueurs jouaient sans partition et d'autres jouaient ce qu'on appelle avec papier noté. Ça, c'est ce que les archives des commissaires du Châtelet nous enseignent. J'ai retrouvé également des archives où, par exemple, Charlotte Dumoustier dit qu'elle a été jouée pour Bertrand ou pour Bienfait dans les différentes foires Saint-Germain et Saint-Laurent. Et après, elle nous renseigne aussi qu'elle a eu une bagarre avec un Bienfait, qu'elle s'est disputée, qu'on lui a envoyé un fer à repasser à la tête, qu'elle a perdu son enfant. Donc, la vie dans les loges foraines est vraiment très très violente, quoi. Donc c'est pas du tout du spectacle policé, c'est vraiment un endroit où les gens luttent pour vivre. Alors ce qui est le plus intéressant, et c'est attesté également par nombre d'archives des commissaires du Châtelet, c'est qu'on a un personnage, un chanteur ou un comédien qui est devant. Donc on voit qu'il y a une véritable interaction entre chanteur, comédien, marionnettes et le plan musical, qui contrairement au théâtre italien des 17e et 18e, ne sont pas dans une loge à l'arrière du Castelet, mais sont présents sur scène. Ce qui offre différents paramètres qui peuvent interagir les uns avec les autres. Alors on a vraiment l'ensemble du public, on a également cet escalier, et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas une simple représentation, elle est fantasmée, mais elle se place vraiment sur des éléments vraiment particuliers, l'escalier qu'on décrit dans les loges de Nicolas Bienfait ou dans d'autres loges de marionnettistes. Alors je vais terminer parce que je vois que le temps file. Ce que je pense des différents éléments entre la marionnette et la musique à cette époque-là, c'est qu'on a eu un gros problème au départ. Quelle place peut-on donner une fois qu'on a vu que la marionnette était présente avec les comédiens? Quand on faisait du texte parlé, donc un opéra comique, c'est à la fois un mélange de texte parlé et de texte chanté sur base des vaudevilles. Quand elles parlaient les unes avec les autres, l'acteur prenait la place, mais presque immédiatement. Le public était directement focalisé sur l'acteur au détriment de la marionnette. Une fois qu'on faisait dialoguer en chantant, sur base de ces vaudevilles qui sont très rythmiques et qui en même temps permettent aux gens de faire ressurgir une idée des hypotextes anciens ou des différents paratextes qu'ils avaient en tête, la marionnette était beaucoup plus efficace que le comédien. Parce que tout d'un coup, elle était incarnée. Son illusion prenait, prenait vraiment une incarnation par le biais du vaudeville. Ça, ça me paraît vraiment une piste de réflexion pour ces journées-ci, c'est qu'il existe d'abord quantité de types de musique. Je pense que je ne ferai pas la même réflexion pour la musique de type opératique que je ne le fais pour la musique en vaudeville. Mais je sais d'expérience que le vaudeville permet à la marionnette de s'incarner et suivant le choix qui est fait par les auteurs, soit pour acteurs de chair et d'os, soit de marionnettes, des types de vaudeville qu'ils veulent faire passer. Par exemple, Carolet utilise énormément d'air à onomatopée. Tout d'un coup, voilà, j'arrête. Tout d'un coup, la marionnette trouve un lieu d'expression qui est vraiment aussi efficace, si pas plus efficace, que quand le chanteur de chair et d'os, lui, a s'exprimé. Voilà, j'aurais vous parlé encore pendant des heures. C'est un répertoire que j'aime comme chercheur, mais également comme praticien. Mais bon, voilà. Voilà, merci.
Merci beaucoup à vous.